Bourdelier a publié il y a quelques années, pas très longtemps, et puis plus récemment, deux livres de Marc Blanchet, et l'éducation des monstres, et méditation et autres
brièveté,
qui est le livre le plus long en définitive. Et mais d'abord, hein, je voudrais rappeler que Marc est photographe et que ce travail de photographie est un travail qui est largement indépendant, on y reviendra, je voudrais par rapport à ton travail d'auteur. Travail d'auteur qui a commencé par la poésie fondamentalement et puis l'essai sur la création poétique notamment puisque tu as publié chez Corti un ouvrage dans lequel on retrouve un ensemble d'essais sur par exemple Dupin et bien d'autres. Donc voilà, et puis toi tu un ensemble je dirais, de textes poétiques qui ont occupé, je pense, ton temps pendant plusieurs années. Et puis, mais ça, on y reviendra également. Je voudrais, après ça, tu vas passer à la prose. Je ne sais pas si, on n'en a pas discuté, pourtant on a discuté de beaucoup de choses. Je ne sais pas, je voudrais, si tu as persisté dans l'écriture poétique.
Ben, tout autrement, c'est. Alors d'abord, merci à Daniel Vanderbutte et à Pierre-Yves aussi de m'accueillir, de donner la possibilité à cette nouvelle série d'images d'être montrée ici, et de le faire évidemment aussi en lien avec les éditions dont on s'occupe. En fait, la poésie, elle est à la source tout de même. Et on va pas, la réputation de la poésie, je m'en méfie, donc c'est à la source qu'en effet il y a eu un travail d'écriture quasi simultané à passer 18 ans avec la découverte de la poésie, beaucoup la poésie contemporaine, puis ensuite j'ai remonté le temps. Donc immédiatement c'était un travail de lecteur-écrivain et peut-être avec une ambition totalement déraisonnée pour le jeune âge. J'envoyais mes manuscrits aux éditeurs, je menais tout ça de manière très intuitive, j'avais une connaissance toute nouvelle, toute fraîche de la poésie, j'en avais pas du tout été bercé, il y en a lu quand j'étais enfant ou adolescent. Et donc ça reste tout de même à la source. Et ensuite, ça a été des grandes années de fécondité, d'excès en tout genre, je parle littéraire pour l'instant. Et puis, à un moment donné, c'est vrai que de manière assez heureuse, ça a répondu. Donc, je dis assez heureuse parce que peut-être ça faisait partie de mon parcours que de progresser en pouvant publier. Et je suis même en train de réviser ma bibliographie officielle, puisque je n'ai pas commencé à publier en 98, mais en 80. En tout cas, j'avais 23 ans.
Oui.
Et que déjà, le livre a été reçu par des critiques, mais encore plus intéressant, plus important, par des écrivains.
Oui.
Donc, voilà. Et je l'ai relu, en fait, récemment. Là, pour le coup, il y a des influences plus visibles. Je voyais bien qu'à l'époque, je disais Jacoté, Rilke, tout ça. Et il y avait une vraie solitude aussi qui est palpable dans ce livre. Et puis j'ai continué ça, puis à un moment donné, ça a été un peu remis en question. D'abord par justement cette fécondité même, et qui peut parfois évidemment tourner à la facilité. Et puis je pense que même il y a un facteur qui a joué, c'était un facteur double, un facteur humain, mais qui n'est pas prépondérant, qui était tout de même l'usure éprouvée à la fréquentation des poètes. Voilà, ça joue aussi à un moment donné un truc, je me suis dit, mais écoute. Voilà, eux-mêmes mettant en doute par leurs multiples sollicitations que je vivais, notamment étant parfois chroniqueur, mais pas seulement, je me disais...
Mais tu as joué un rôle assez important, notamment à la Maison de la Poésie de Paris.
Maison de la Poésie,
comme,
la chronique, ouais.
Comme quelqu'un qui recevait un certain nombre d'auteurs, et en particulier des poètes. Et c'est dans ce cadre-là, d'ailleurs, que nous nous sommes rencontrés,
tout à fait,
autour de Jean-Michel Reynard et de la Revue L'Étrangère. Bref. Tu as fait un travail pendant cette période-là, en tout cas, certainement, tu as fait un travail de chroniqueur, mais chroniqueur, pas seulement qu'à l'écrit, chroniqueur qui rencontrait poète et écrivain, mais poète d'abord et avant tout. Hein.
Oui, c'était le principe de la Maison de la Poésie, je l'ai ouvert de plus en plus, d'abord à travers des personnes qui sont très précieuses pour parler d'un auteur, ce sont les traducteurs, souvent c'était très intéressant d'en avoir, ça permettait d'élargir évidemment le spectre des livres présentés, chroniqués, puisqu'on touchait à la poésie étrangère. Et puis parce que aussi c'est important de s'intéresser à ses contemporains. Voilà, non seulement parce qu'on apprend avec eux, mais parce que aussi on peut faire des choses pour eux. Donc chroniquer, partager, je crois en des vertus fraternelles, qui sont des choses que je vis encore plus aujourd'hui, je trouve d'ailleurs dans les gens que je peux fréquenter. Ça c'est important. Mais je pense que tout ça, je l'ai mené très loin, la poésie, oui, la chronique et tout. Et puis, à un moment donné, c'est dessiné la prose malgré moi. Comme la poésie, c'était dessiné malgré moi, je n'étais pas destiné à la poésie. Et même si ensuite, il n'y avait que ça qui comptait. Donc, il y a eu une obtention de la prose à voir. C'est-à-dire, voilà. Donc, du coup, les lectures ont commencé aussi à varier. Enfin, voilà. Et c'est vrai, forcément, on regarde de plus en plus, à un moment donné, si on se pose ces questions-là, peut-être, je pense, vers les classiques. Et puis, il y a aussi des conditions purement qui nous sont communes, actuelles, historiques, de raréfaction, de possibilité de promouvoir ou de partager certaines choses. Voilà, donc tout ça fait que, dans ces métamorphoses-là, dont je suis bien loin évidemment de saisir tous les aspects et toutes les séquences, la poésie est un champ que j'ai quitté. Il y a eu la prose, des récits, le plaisir du récit, le plaisir de trouver ce que ça peut être un récit, une narration. Et la poésie est restée de manière très... C'est-à-dire que là où j'écrivais un recueil, genre tous les 6 mois, maintenant j'en écris un qui me prendra peut-être 10 ans, et ce qui ne me pose aucun problème. Donc, c'est beaucoup de remises en question. C'est beaucoup de questions, je suis en plein instant, c'est un emmerde d'adresse.
Oui.
C'est-à-dire, comment on s'adresse. Et je pense que le récit, comme la photographie, parfois, accroît comme ça un peu le nombre de rencontres et remet en question des rapports qu'on a avec des formes d'expérimentation littéraire qui m'ont beaucoup nourri, que j'ai beaucoup aimé et dont maintenant, je sens bien que je m'éloigne un peu, pas par volonté... d'un public, mais plutôt par simple cheminement personnel. Voilà, donc je suis plus plongé de manière amoureuse dans mes lectures actuellement de Giono, de Ramu. Voilà, c'est vraiment devenu des mondes. Le 19e aussi, c'est devenu vraiment quelque chose de plus important. Et tout ça participe de changements qui font que, eh ben, tant mieux si on ne voit pas le bout de sa vie, quoi. Je pense que c'est plutôt court devant nous quand on ne voit que son regard, on ne voit pas encore. Continue, j'espère, à être de la même manière.
Tout à fait, mais ce qui me frappe, je l'ai beaucoup, mais on en a discuté, je me suis rappelé des discussions qu'on a eues à plusieurs reprises au cours des derniers jours, notamment le fait que tu te sois, que tu te sens très attiré par le 19e siècle. Du moins, tu sens que le 19e siècle a été un moment extrêmement important dans la création littéraire et artistique occidentale. Et bon, là, est-ce que cela aura quelque chose à voir avec le type de travail que tu fais aujourd'hui, je ne sais pas, mais certainement qu'il y a un type de préoccupation qui est moins sur le contemporain.
Je trouverais presque douteux qu'un écrivain soit uniquement sur le contemporain. Enfin, quand j'observe ça autour de moi, c'est un peu, vous savez, c'est comme ces artistes qui ne regarderaient pas l'histoire de l'art. Avant Warhol, enfin, il y a un truc qui est un peu maladif comme ça. Donc je pense qu'on se nourrit de ses contemporains, on se nourrit des classiques. Le 19e siècle, c'est vraiment un moment où en effet la littérature déborde des cercles, en fait, d'adresses plus fermées, plus lettrées, entre guillemets plus mondains, pour toucher comme ça davantage, avec le souci même des auteurs, de toucher le peuple. Et puis, parce que c'est une époque tellement marquante en termes évidemment aussi de modernité pour le roman et aussi évidemment pour la poésie, que voilà, c'est aussi des lectures du moment. Il y a aussi des lectures lacunaires. J'étais lacunaire sur certains auteurs, donc j'essaie de combler. Par exemple, je l'avoue, je n'avais pas encore lu Madame Bovary. Et tant mieux, parce que j'ai vraiment le lisant, j'avais devant moi aussi Courbet, l'école de Barbizon, j'avais la compréhension de Cézanne, enfin. Tout ça était frais, et je pense que de toute façon, et ça, c'est pas là par hasard. Et puis voilà, je relis Stendhal et tout, mais comme je vais à un seul coup, c'est parce qu'il faut pas systématiser les choses. À un moment donné, hop, entre mes mains, il y a quelque chose de contemporain qui va arriver, et puis hop, ça va être un auteur du 17e, et puis je vais relire d'un seul coup Sophocle. Et voilà, donc je pense qu'on est des lecteurs comme ça, puis à un moment donné, on a des moments de démentation. Mais j'aime bien aussi cet aspect un peu de dévoration, un auteur qu'on aime, qu'on l'aime vraiment, de se dire tiens, je continue. Puis d'ailleurs, c'est marrant parce qu'à un moment donné, il n'y a plus que ça qui compte, et en même temps, on n'arrive pas au bout, puis hop, d'un seul coup, on ne sait pas pourquoi ça disparaît, et puis il y a d'autres auteurs qui arrivent là. Voilà, c'est toujours un peu des petites figurines qu'on pose sur sa table de travail, et puis avec lesquelles on dialogue. C'est pour ça que le livre que j'avais fait sur les auteurs, je les avais appelés les amis secrets.
Tout à fait.
Parce que c'est le terme qu'utilisait Pétrarque pour parler des classiques, qui étaient pour lui les Grecs et les Latins. Et cette idée de voilà, c'est des affinités électives autrement, quoi, les amis secrets. Et en même temps, ça me plaît bien qu'en effet, ça soit à la fois l'amitié dans tout ce qu'elle peut avoir d'affirmé, et puis le secret dans tout ce que ça peut supposer parfois d'intérieur et de nourricier. Donc voilà, c'est comme ça que les choses cheminent, et elles ne peuvent pas cheminer uniquement au sein de la littérature. Il faut que. Moi, je suis très heureux d'avoir des amis peintres, des amis musiciens. Voilà.
Tu ne cèdes pas sur la poésie en disant que si ça prend 10 ans pour le prochain livre, ça prendra 10 ans. Tu ne cèdes pas non plus sur la prose, puisque je pense que tu es plus dedans que jamais. Et tu ne cèdes pas non plus sur l'essai, puisque tu nous proposes un essai sur Beckett, sur lequel j'aimerais que tu dises deux mots au passage. Ouais, tu proposes quand même, je dirais, un travail qui est de l'ordre de la réflexion et de la création au sens fort du terme. Et à cela s'ajoute ton travail de photographe, ouais, qui est un travail quand même qui existe depuis plusieurs années et qui, tout en étant pas indépendant, je dirais, de ce que tu es depuis tes 16 ans, si je peux dire, depuis le moment, je dirais, où la création littéraire t'a retenu, jusqu'à aujourd'hui, en même temps, tu développes quelque chose qui est de l'ordre de la création, j'allais dire picturale. Je ne trouve pas d'autre mot pour nommer la chose, parce que quand je regarde le travail que tu présentes ici, c'est un travail pictural au sens fort du terme.
Oui, alors je me permets une aparté. En même temps, quand tu dis tout ça, je vois mes journées qui passent, j'ai plutôt l'impression d'avoir des journées de feignasse parfois, vraiment, en me disant que j'ai pas fait grand chose. Donc ça donnerait une sorte d'impression d'emploi du temps. En fait, non, tout ça est parfois lent, et je crois que tout ça est aussi très confus tout de même encore. Et c'est comme ça, j'ai l'impression plutôt que tout ça est très chaotique, et que je suis le premier surpris parfois à voir des choses aboutir. C'est long aussi dans le temps, mais ça c'est bien aussi que ça soit lent dans le temps. Ça rend les choses. Oui, précieuse, sensée d'une certaine manière. Et donc, voilà, je me suis mis à un moment donné à écrire des essais, parce que je voulais. D'abord, j'ai écrit un essai sur un peintre bengali qui s'appelait Loknath Bhattacharya, qui est quelqu'un que j'ai rencontré, qui a compté pour moi, puisqu'il est décédé. Et puis, il y a des choses comme ça, donc, l'essai sur Beckett. Je l'ai écrit il y a 3-4 ans, et je m'étais aperçu qu'en fait, c'était pas dans mes lectures, en fait, Beckett. J'ai même perdu un jour un travail à cause de Beckett, parce que j'étais gardien à la Maison de la Culture de Bourges, et là, quelqu'un de la communication est venu en disant plier les programmes pour le Beckett qu'il avait donné. Puis j'ai dit, moi je refuse de soutenir l'art dégénéré, et je trouvais ça très drôle de dire ça. Je pense que Beckett, ça l'aurait fait sourire, et du coup, j'étais évincé de la maison, parce qu'on n'appréciait pas le genre d'humour. Et en fait, voilà, c'est-à-dire se dire que se méfier de ces certitudes qu'on a sur certains auteurs, quand d'un seul coup ils ne rentrent pas dans notre constellation même de création, ou quand, l'air de rien, on véhicule quelque chose en nous, parfois un peu trop méfiant, par rapport soit à des expérimentations, soit par rapport à même à du classicisme. Hein. Croisant, là je parlais de Giono, il y a plein de gens qui se défient parfois de cet auteur-là, qui est pour moi un grand et un grand moderne.
Tu es le premier à m'avoir parlé de Giono dans les termes où j'ai entendu parler de Giono, en me citant un certain nombre de titres, dont un titre en particulier que je vais aller chercher immédiatement parce que ça m'intriguait. Ouais. Effectivement, ça peut paraître bizarre, je dirais, d'un côté, je dirais que tu travailles sur des questions qui sont, je dirais, dans la mouvance des. J'allais dire des avant-gardes, c'est pas vraiment le mot.
Oui,
on peut le dire. Parce que, non, bon. D'une part, et d'autre part, que tu revois Giono au travers un œil tout à fait différent.
Oui, mais et en même temps, Giono, il était là en même temps que Beckett.
Oui.
Et Britten était là en même temps que Boulez, et ça n'arrête pas, en fait, de se croiser comme ça. Et il y a toujours deux histoires artistiques, hein, ou histoire littéraire. Il y a celle qui est un peu officielle, il y a l'importance des avant-gardes et modernes, qui est quelque chose de tout même très spécifique à l'Europe, parfois, pas seulement d'ailleurs. Et puis en même temps, il y a des gens qui continuent leur travail de fond, et puis c'est parfois des romanciers qui sont là, qui ne sont pas toujours visibles. C'est des poètes dont la langue a peut-être moins de séduction avant-gardiste que d'autres, mais qui sont là et qui construisent quelque chose. Et en effet, quand Boulez déployait sa pensée de la musique dodécaphonique après la seconde école de Vienne, il a eu comme objectif aussi de détruire Maurice Ohana ou Dutilleux, enfin voilà. Ensuite, le temps est un filtre impitoyable, donc voilà, il y a des choses qui... Moi j'aime bien, c'est voilà, de considérer qu'en effet, on peut tout à fait aller voir un travail d'installation et puis s'émouvoir devant le travail d'un peintre aujourd'hui comme Ronan Barrault, qui a 42 ans. Mais c'est peut-être parce que là, maintenant, on en est, au XXIe siècle, on est à la crête de quelque chose où ces choses, ces différences-là, s'établissent peut-être justement de manière moins radicale. Et que peut-être même Beckett, on va commencer à le lire autrement, et je pense que même déjà, c'est connu, les Anglais le lisent très différemment. Les Français, ils ne le lisent pas avec le même esprit, de la même manière. Si je me contentionne autant, c'est que j'ai un peu froid, en fait. C'est pas, je m'excuse, hein, mais c'est un peu nerveux aussi, peut-être. Et puis, voilà, ensuite... Quand on parlait d'écriture, ben voilà, je suis dans un essai sur Beckett à un moment donné, je continue le travail poétique, je suis dans un récit et tout ça, et lent et parfois surtout absent, plus que présent. En tout cas, Beckett, c'est une pièce de Beckett qui s'appelle Souffle, elle fait une page, elle dure 35 secondes, et ça me plaisait bien d'être dans cette figure imposée-là, d'une pièce d'ailleurs souvent méconnue, que lui-même sous-titrait Interlude, dont il avait eu la commande en 69 pour un festival. Festival érotique, enfin, ou festival du théâtre érotique, je sais pas comment c'était là, où c'était un festival de théâtre qui avait comme thème l'érotisme, et lui a choisi l'absence totale d'interprète sur le plateau, un parterre d'ordures, un vagissement suivi d'un. J'oublie un peu, bref, il y a une montée comme ça, et puis une descente, pourtant c'est bref, c'est ça que j'oublie, donc c'est parfait. C'est-à-dire que ça veut dire que déjà, je commence à penser à l'œuvre et tout, et je me suis dit, prenons déjà cette première partie, on va la jouer au piano. On va voir comment ça sonne. Et ça, c'est la première partie. Les deuxième et troisième parties essaient de donner une revisite à travers les terminologies, les thématiques présentes dans cette œuvre, et puis de montrer comment il y a cette présence sans cesse du tombeau, de cette sorte de vie un peu éternelle, d'individu. Chez Beckett, il y a toujours des choses d'émotion, d'individus qui se souviennent d'une chose qu'ils avaient vécue, qui était un sentiment d'amour, une rencontre qu'ils ont faite. Il y a des nostalgies qui opèrent comme ça, mais qui sont complètement épuisées, déstructurées, de montrer donc comment ça sonne, quoi. Et d'ailleurs, j'étais très heureux qu'un de mes lecteurs soit un compositeur, qui est Georgi Kurtág, qui est un compositeur hongrois, qui est en train de mettre en musique fin de partie pour le Festival de Salzbourg, parce que j'avais aussi envie d'avoir cet échange-là avec quelqu'un. Donc voilà un peu...
Oui, mais ce qui me frappe en même temps que le reste, tu revisites totalement avec elle, d'une certaine manière.
Oui, je trouve que c'est de montrer que...
À partir d'un texte, je dirais qu'il y a une page qui tient à l'intérieur d'une page très facilement.
Bah c'est une fois ayant lu ça, j'ai relu tout Beckett de A à Z et je voyais comment voilà, ça se mettait en liaison, en correspondance. Et voilà, donc c'est pour ça aujourd'hui il y a ça, et puis là, il va y avoir un projet théâtre, et puis voilà, c'est des choses qui se mettent à exister, et je trouve ça plutôt fécond.
Oui. Tu as parlé tout à l'heure, je voudrais, de l'importance de la poésie qui, au point de départ, de la rêve, peut-être lance des choses. Mais tu en arrives à la photographie. Et comment fait-on, je dirais, ou plutôt, je dirais, comment ça se présente? Tout à l'heure, tu as dit, oui, c'est arrivé comme ça, je fais bien. Bon. Mais est-ce que les choses arrivent comme ça
La photographie, c'est arrivé comme ça.
Oui.
C'est-à-dire, on part en vacances, on est parti pour... J'avais eu une aide du ministère des Affaires étrangères pour... aller voir la présence chrétienne en Inde, donc j'avais fait le Portugal et l'Inde, donc la côte ouest du Portugal, de l'Inde, pardon. Et mon ami a dit on va acheter un appareil photo, et ça m'a mis hors de moi, parce que je trouvais ça stupide de faire des photos de voyage, donc la laisser faire, comme souvent. Et quand on est parti, j'ai dit d'accord, mais moi si j'achète des pellicules, ça sera du noir et blanc. Bah, savoir pourquoi, puis j'ai commencé à faire des photos, puis j'ai pas arrêté de garder son appareil pendant tout le séjour. Je suis revenu et je savais qu'il s'était passé quelque chose, et j'ai été me frotter au regard de gens que je connais qui font la photo et qui m'ont dit ben, alors c'est un peu délicat de le dire comme ça, mais je vais le dire comme ça, t'es un photographe, quoi, voilà. Il y a quelque chose qui. Et puis ensuite, ben, les choses se sont aussi un peu sédimentées, quoi. Il fallait aussi se. Il y a eu l'Inde après, j'ai acheté évidemment un appareil de meilleure qualité, mais j'ai gardé par contre des appareils légers, très légers. Et puis ça s'est accumulé, et puis à un moment donné, on voit bien qu'il y a des obsessions qui sont là, ça revient, et puis ça s'épure, c'est-à-dire que le premier travail photographique, on était encore un peu dans un... Je vais être un peu dur, mais c'est juste une photographie, comme on dit, humaniste, un peu la carte de Bresson, tout ça. Et puis je voyais bien, il y avait des choses de diffraction et tout, puis et ben, on lit la photographie, on regarde, voilà. On se fait une culture photographique, on s'éprouve, parce que la photo, c'est un choix d'image, et là, voilà, pour arriver à la série récemment, ça c'est de prendre 4 ans de photos, de se dire qu'on a 6000, 7000 clichés, et qu'il n'y en aura que 40 de retenue, et en seconde division, il doit y en avoir une vingtaine, quoi, mais... Ouais. Ben, voilà, puis il y a des images qui s'imposent tout de suite, plutôt il y a des images, on se dit, ah, elle est bien, puis finalement, avec le temps, c'est comme une première division, quoi, il est sur le terrain, il ne tient pas, en fait. C'est un très bon joueur en entraînement, mais en fait, voilà. Donc il y a des images qui s'éliminent, et puis il y a des correspondances qui existent, et puis il y en a d'autres qu'il faut affiner. Donc ça, c'est un choix. C'est-à-dire que le travail d'un photographe, c'est aussi le travail, évidemment, pas seulement de faire des photos, mais de les choisir. C'est pour ça que c'est très intéressant de faire des planches, parfois, voilà, je parle de Cartier-Bresson, mais à chaque fois, il repère l'image parfaite, quoi. Bouba, il va au jardin du Luxembourg, il fait quelques photos, là, dans cette petite fille barbouillée dans la terre, il sait qu'il vient de faire quelque chose. Des fois, il y a ces moments-là. Donc maintenant, je sais aussi quelles images je fais, donc j'ai encore plus d'acuité dans mon déplacement physique, dans l'espace, mais aussi il faut qu'à un moment donné réinterroger ça. Par exemple, je me suis dit, la série d'après, puisque là il y a beaucoup de reflets, ça ne va pas être ça. Ça s'appellera La Nuit, enfin, le titre que j'ai gardé pour l'instant, et là on va être dans des choses où s'il y a une dimension plus abstraite, et parfois même un peu plus d'ensemble de ces images.
Déjà des dimensions assez abstraites.
Oui, tout à fait. Ben, c'est parce qu'en fait, si on faisait un peu de manière originelle, on pourrait dire que d'abord il y a la matière, et la matière elle se présente sous forme de volume à nous, et ces volumes, si on les perçoit, c'est parce qu'il y a la lumière. Et c'est un chemin qu'on peut faire aussi avec la photographie. Mmh. Pas spécialement de se dire, il y a du sujet, il y a du réel, je me méfie de ce manière de se connecter au réel. En plus, dans le milieu dramaturgique aussi, dans lequel je suis, devant des gens qui veulent parler du réel, on ne sait pas toujours ce que ça veut dire. Donc, voilà, il y a d'abord de la perception. C'est plutôt des images qui mettent en jeu, en fait, la perception. D'où le fait que, parfois, des gens me disent... pensent que c'est ce... la précision que je donnais malgré moi tout à l'heure. Ils pensent que c'est des images truquées. Mm-hmm. Que c'est deux images distinctes, ou trois, qui ont été superposées. Non, justement, mais c'est pas parce que je dis non, c'est bien pour autant. Mais ensuite, ça pose la question d'un peu, enfin, ça pose pas la question d'eux, mais c'est une perception et qui ensuite s'organise. Et puis, c'est aussi du déplacement. Voilà, c'est une manière aussi d'aller dans le monde. C'est pour ça que du coup, la photographie, moi je pensais pas que je voyagerais dans ma vie. En plus, quand j'ai voyagé, je savais parce que j'avais une nature un peu trouillarde et tout, et la photographie m'a permis d'aller dans l'espace. Mais en plus, en faisant ça, tout espace devient intéressant. Il n'y a pas de vertu absolue du voyage. C'est-à-dire que ça se passe là, maintenant, voilà quoi. Pour ça, je regarde le bébé, parce que je trouve que... Voilà, il y a des choses qui se dessinent, quoi, tout de suite. Et c'est vrai que du coup, à force, je vois le monde en noir et blanc, dans des nuances de gris tout le temps.
Mais est-ce que tu as fait de la couleur quand même?
Non.
Non, pas du tout.
Non, je sais pas. Non. Non, j'en ai jamais fait.
Ouais. Bien. Et bon, dans ce travail-ci, hein, il y a 40 photos que tu présentes, que tu proposes. Ouais, et moi, ce qui me frappe le reste, c'est la technique de reproduction. Ça, je suis frappé de voir à quel point le reste est arrivé à un travail de reproduction de tes photos avec des contrastes qui sont extrêmement forts et en même temps avec des définitions très précises des choses. Alors j'aimerais que tu me dises deux mots, je voudrais, sur la technique que tu utilises, parce que je dirais que ce n'est pas rien. Quand on dit technique, je dirais que c'est plus que la technique pour qu'on en parle.
Ben oui, c'est pas la même chose que l'aquarelle ou la peinture à l'huile ou acrylique. Non, mais c'est des vrais choix, donc c'est aussi une manière de penser les choses. Donc, en ayant fait de la photo, je me suis évidemment... je suis devenu très vite sensible à comment elle allait exister en termes d'impression. Donc, dans les techniques qui s'offrent à nous aujourd'hui, hein, on peut continuer via l'argentique sur des images, sur du papier barité, hein, on peut même imprimer de manière avec du jet d'encre sur du papier barité. Mais là, c'est du papier fine art, donc un papier coton, un papier qui n'est pas sans, d'ailleurs très proche de l'absolu aquarelle. Donc, comme on dit, il a une main, une certaine épaisseur. Et puis ensuite, c'est cette impression de tirage pigmentaire, charbon, qui va être un dépôt, d'où la fragilité de ces images et les petits frissons quand les gens s'en approchent. C'est-à-dire qu'on a un dépôt d'image qui, évidemment, la pénètre, mais qui reste même aussi en surface. Et du coup, il y a une forme de velouté qu'on retrouve qui fait penser inévitablement à une forme antérieure d'impression qui est l'héliogravure et qui permet ensuite d'avoir des profondeurs de noir, des nuances, des finesses qui sont en effet assez épatantes et qui, pour moi, rentrent en adéquation parfaite avec les images que je fais. Voilà, c'est sûr que dans un tout type de travail photographique, on peut évidemment, on a recours à d'autres types de, on peut faire du contre-collage, on peut prendre d'autres types de matière, mais pour celle-ci, pour peut-être aussi la temporalité qui s'en dégage, il me semble que le support est en adéquation.
Il y a plusieurs personnages dans tes photos aussi. Des personnages, je dirais, qu'on voit avec parfois dans une transparence, parfois avec qui sont complètement, je dirais, dissimulés, si je peux dire. Du moins, tu les dissimules d'une manière ou d'une autre. Or, c'est ce rapport, je dirais, qu'il y a entre ces personnages, je pense à ces deux pièces-là, Rondeillère, et à côté, je dirais, un travail qui est carrément abstrait. C'est ce rapport, je dirais, entre une représentation, une figuration, si je peux dire, et une abstraction. Je ne dis pas que l'abstraction n'est pas une figuration, c'est un autre mode de figuration. Mais il y a quand même, cette diversité dans ton travail, cette diversité qui est absolument considérable, c'est étonnant. Est-ce que c'est quelque chose qui s'est imposé également, je dirais, au départ, ou est-ce que c'est quelque chose à laquelle tu es venu après un travail de quelques années quand même? Tu parlais d'une quinzaine d'années.
Non, c'est des choses, en effet, que maintenant, il y a une évolution, évidemment, des photos prises, la manière de les prendre, et forcément de savoir ce qu'on est en train de prendre comme photo. Mais en même temps, celle du milieu entre les deux portraits, les gens mettent du temps à voir qu'il y a un visage aussi.
Oui, bien sûr.
Et qu'il est diffracté, et qu'on a du Picasso Giotto, là, qui est au milieu de ces deux photographies. Mais en fait, c'est pas tant une histoire en effet de abstraction, figuration, que plutôt une histoire de perception, quoi. C'est-à-dire qu'il y a des formes, c'est comme un curseur qu'on déplace, il y a des choses qui deviennent lisibles dans leur clarté, même si c'est des images d'une impression toute imprégnée un peu d'une certaine nuit, d'une certaine obscurité. Et puis il y en a d'autres, on peut. Il n'y aurait que des images comme ça, on aurait presque un style, quoi. Mais ce qui m'intéressait, c'est qu'à un moment donné, dans ce travail de perception, de choses qu'on distingue et tout, d'un seul coup, il y en a une, elle ne soit plus que des lignes. Et en même temps, quand on regarde une image comme celle-ci, alors, voilà, quelqu'un récemment l'avait acheté, en avait acheté une et l'a fait encadrer, quelqu'un lui a dit, c'est un soulage. Et ça m'a amusé parce qu'en fait, c'est une image en même temps complètement structurée. Il y a deux barres de fenêtres et puis c'est des sparadraps que j'ai pris en photo et tout. Donc ça veut dire que pour moi, j'ai pris aussi quelque chose de totalement réel en photo. Mais simplement, c'est ce qui s'agit bien de dire, c'est justement cette histoire de réalité. C'est la transmutation qui se met à exister à travers le noir et blanc photographique.
Il y a toi qui vois ton travail, je dirais, puis il y a les autres qui voient ton travail. Je dirais, d'une certaine manière, la réception n'est jamais identique. Bon,
c'est essentiel.
C'est ce que tu dis, mais c'est essentiel. Ouais.
Oui, c'est le bonheur du travail photo, c'est que les gens entament chacun une narration sur des images, si ça leur plaît, et qu'en plus, ils ont...
Ça me frappe, excuse-moi, je m'interromps là-dessus, ça fait plusieurs reprises, tu as parlé de narration depuis hier, le travail du montage, tu as parlé de narration par rapport à la photo. Et je pense que c'est important, parce qu'il y a une puissance d'évocation. L'évocation, n'est pas une évocation précise, elle est ce qu'on veut bien y mettre dedans, toi. Et donc, il y a un récit qui se construit, forcément. À chaque fois. Et c'est là, je voudrais que l'idée d'abstraction, je voudrais basculer dans quelque chose qui est une recomposition, je veux dire, donc, je dirais dans une espèce de prose, de cette façon, je constate ici dans le travail que tu as présenté, en tout cas, ici. Et en même temps, tu dis bien, je dirais, qu'il s'agit d'images, c'est au sens fort du terme, c'est-à-dire, c'est presque des visions, je dirais, du réel. C'est un réel découpé, fragmenté, décomposé, et puis que tu recomposes, que celui qui regarde recompose d'une certaine manière.
Mais ça, c'est la fertilité de la personne qui perçoit, qui est interrogée. Et simplement, puisqu'on est tous plus ou moins sur le chemin du sens, on a besoin de signification. Dès l'instant où on a quelque chose qui soit établi selon des codes vraiment communs ou moins, on a besoin de réinvestir ce qui nous est proposé, ce qui fait parfois la fertilité de certaines œuvres. Donc ce dont je m'aperçois moi en travers ces expositions, c'est qu'en effet, les gens commencent à raconter quelque chose, et la manière dont ils racontent, de toute façon, c'est une manière aussi eux-mêmes de s'établir dans le temps. Ils racontent aussi quelque chose d'eux-mêmes à ce moment-là, qui est leur propre capacité à percevoir les choses, mais à pouvoir les mettre en ordre. Donc, du coup, il y a une forme d'établissement à travers une image comme ça qui s'arrête dans le temps de ce qu'ils perçoivent et comment ils vont me mettre à raconter. Et le plus drôle, évidemment, étant que eux, si je commence à leur dire « oui, il y a aussi ça », les gens disent « non, c'est surtout ça ». C'est-à-dire qu'eux sont les détenteurs absolus de leur narration, et que quelque part, là-dedans aussi, ils sont autant dans le partage qu'ils sont intouchables là-dedans. Donc, ensuite, il y a des travaux photographiques peut-être qui ne vont pas toujours libérer cette forme même de narration, et les gens ressortiront sur des histoires peut-être plus de sensations, d'impressions, avec quelque chose de moins verbalisé. Mais et ça n'assure aucune, il n'y a pas de distinction qui assurerait une qualité ou une prédominance de l'un par rapport à l'autre. Mais voilà, ensuite, c'est... alors, la narration, c'est parce que, oui, on est, manifestement, l'humain éprouve le besoin aussi de, pas seulement de trouver un sens comme ça, un peu arrêté, mais de raconter quelque chose à partir des œuvres qu'il apprécie. Et d'ailleurs, on le voit bien... comment on peut raconter dans une soirée entre amis un film, tout ce qu'on est à la fois dans un mélange de narration, c'est donner des perspectives signifiantes ou pas à quelque chose qu'on a reçu. Et en même temps, ça me plaît bien que chacun entame quelque chose de l'ordre du récit. C'est-à-dire qu'il commence en effet à établir l'histoire de sa pensée à travers des images. Il montre qu'il est un individu qui relie un point à un autre. Et je pense que cette fécondité-là est essentielle chez un individu. Et que, en tout cas, moi, je n'ai pas à lui interdire, déjà. Et si je la vois naître sous mes yeux, je trouve ça plutôt heureux.
Est-ce que la Russie, dans tes livres, ben, c'est amorcé parallèlement, et je dirais presque simultanément, au récit que tu tentes de construire à travers l'image photographique? Je dis ça parce que, tout à l'heure, enfin, plus tôt, et puis dans nos discussions passées, tu as insisté sur le fait que non, le travail photographique, c'est un travail photographique. Je suis une personne à ce moment-là, je dirais, qui travaille la photographie, et le travail d'écrivain, à proprement parler, c'est quelque chose qui est nettement distinct. C'est très bien, je dirais que ce n'est pas nettement distinct, ou ce n'est pas aussi nettement distinct qu'on veut bien le dire. Mais reste quand même, ce qui me frappe, je dirais, c'est que tu amorces un travail, je dirais, de narrateur, de prosateur. Et parallèlement à cela, je dirais, on découvre le travail de photographe qui dure depuis 10-15 ans. Mmh. Bon, je te dis ça,
c'est une... Mais je t'écoute, non, mais bien sûr, mais c'est pour ça que j'ai eu un léger sourire, c'est parce qu'en effet, on m'y confronte. Non, c'est que c'est tellement une manière physiquement différente d'exister que de faire de la photo, que par rapport au moment où je suis chez moi, où j'écris, ou même je rumine, que forcément, il y a des choses différentes. Et je pense même que non seulement je n'ai pas le même corps, mais je pense même que je suis un peu plus grand quand je fais de la photo, pour dire les choses. Mais en même temps, au moment où je dis ça, évidemment, ça pourrait me ramener du côté de la fantaisie des choses que j'écris. Quand on écrit, tout de même, il y a les mots ont une signification, quoi. Donc il y a toujours quelque chose qui se met à exister autrement. En fait, j'ai eu un rapport trop lâche à un moment donné un peu avec ma propre photographie pour avoir vraiment envie de m'y remettre, pour trouver une coïncidence temporelle entre l'abord du récit et le travail photographique. Ce qui est important, c'est que c'est une observation d'avoir vu des gens plus âgés, mais en tout cas vivants, être des écrivains photographes. Et en fait, ce qui se passe, c'est que ces écrivains photographes s'appuient sur leur travail littéraire pour faire passer leur travail photographique. Souvent, c'est ça. Et c'est, ah tiens, il fait également de la photo, puis hop, tout de suite, ils font le livre parce que l'éditeur qui a publié leur livre littéraire va publier aussi leur livre photo et tout. Il y a quelque chose qui me mettait mal à l'aise vis-à-vis de ça. Mais en même temps, ça aurait pu me mettre mal à l'aise, et puis j'aurais justement décidé d'en faire autant. Mais c'est parce que surtout, je crois aux vertus des rencontres, Et du coup, c'était très heureux d'avoir des gens qui appréciaient le travail photographique et de les inviter à écrire dessus. Donc ça a commencé avec un philosophe, Olivier Romeau, ça s'est poursuivi avec l'écrivain irrégulier, et maintenant c'est avec un historien, historien de l'art également, qui, enfin plutôt historien tout de même, qui est Patrick Boucheron. Et voilà, donc du coup, ça me plaît bien à un moment donné de convier ces gens en amitié, en affinité, pour écrire sur ces images. Et du coup, moi j'éprouve une certaine séparation. Ouais. Mais parce que aussi, parce que peut-être aussi je suis très divisé en moi-même, et voilà, et ça ne me gêne pas d'être plusieurs individus, même si je sais bien qu'à l'arrivée il n'y en a qu'un, peut-être, enfin, quoique j'en sais rien, j'aurais pu aussi écrire sur pseudo certaines choses. Et d'ailleurs, c'est pas impossible que je l'ai fait. Donc voilà.
Je crois pas l'avouer quand même. Hein?
Mais non, mais ça me. Non, j'ai même écrit le livre de quelqu'un qui sort là et je suis ravi. Je suis ravi de voir qu'il va en parler comme si c'était le sien. Voilà. Mais ça me plaît beaucoup. Et voilà, donc. Je sais pas, il y a toujours eu plusieurs personnes en moi. Même le poète n'est pas pareil que. Voilà. Donc. Le photographe et encore autre chose, quoi. Et unifier tout ça, une sorte de truc un peu d'artiste absolu, c'est pas possible. Enfin, j'ai trop d'ironie vis-à-vis de ça, et ça, pour le coup, c'est vrai que les livres que vous avez publiés témoignent de ça. C'est vraiment les livres qui en témoignent le plus.
Oui. Écoutez, est-ce qu'il y a des questions? Parce que je vois qu'on avance, il doit y avoir des... Parce que je ne suis pas le seul ici, donc je dirais, est-ce qu'il y a des questions, des remarques, des...
C'est moins une question, mais ayant lu, quand on lit un livre, on s'imprègne de l'image, je n'avais jamais vu de photo de vous, ni rien donc, on se fait une idée du personnage, qui est un fantasme finalement. Et en voyant ceci, je me rends compte que, pour moi, votre personnage, le livre et ceci correspondent très fort. Mais... Bon, c'est aussi une interprétation, évidemment.
Ah oui, mais peut-être tant mieux aussi. Enfin, ça, c'est pas seulement parce que c'est rassurant, peut-être, mais parce que c'est bien aussi que les choses se répondent. Mais c'est bien aussi que les choses se répondent à notre insu.
Oui.
C'est-à-dire que moi, j'ai pas la maîtrise du tout de ça. Je ne peux pas avoir la maîtrise de ça.
Non.
Donc, voilà, ensuite, on déploie quelque chose du littéraire, on fait de la photo, on se dit, tiens, c'est peut-être autre chose. On peut... Voilà, parce que je veux pas lier, en tout cas, je me méfie du commentaire d'un travail sur un autre et puis du commentaire sur soi-même. Donc, en tout cas, voilà, ces choses-là sont apparues. Il faut ensuite les vivre. On peut parfois même avoir à les assumer. Et en tout cas, en être extrêmement exigeant avec elles. C'est pour ça que, faisant de la photo, je me frotte au milieu de la photo, comme je me suis frotté au milieu de la littérature, entre guillemets, en voyant des manuscrits, voilà. C'est pas, je veux pas être dans une sorte de truc, voilà, donc avoir des gens qui se confronter à ça, voilà, être dans une réalité pour le coup palpable. Mais oui, qu'il y ait cette unité-là, et bien, même si quand vous me dites ça, je n'entrevois que quelque chose.
Voilà. Alors, encore une question rapide, si personne n'est... Vous avez parlé, vous avez cité Racoté. Quel est votre rapport par rapport à lui?
Ben, c'est une lecture un peu lointaine maintenant. C'est un peu plus une lecture que j'ai aimée quand je découvrais la poésie vers 20 ans. Il m'arrivait d'en relire avec affection, parfois admiration, mais plutôt affection. Et voilà, donc c'est moins dans ma constellation d'auteurs proches aujourd'hui, très clairement. Il y a une belle prose, il y a des choses, mais il y a aussi quelque chose d'un peu fatigué dans la perception même de l'existence auquel je ne peux pas spécialement soustraire.
Vous êtes trop jeune, en fait, parce qu'il se fout ce qui se préoccupe de la mort, et vous êtes, grâce à vous, trop jeune pour ça.
Je ne sais pas. En même temps, on aime tellement des auteurs qui, pour d'autres, ça paraît comme morbide. Non, mais ils s'en préoccupent. Ensuite, la mort, en plus dans l'histoire même de la poésie, quelque chose évidemment très présent, mais enfin un peu partout. Et je crois qu'il y a quelque chose qui m'a paru moins fort dans son écriture au cours des ans, même dans quelque chose de plus délicat, ou de plus rare, ou parfois même de plus attentif. et que j'arrive pas à, sur lequel j'arrive pas à avoir une adhésion parce que je trouve que c'est, enfin on va pas je vais pas dans le topo, je trouve c'est moins bon quoi, tout bonnement. Et je pense que c'est une génération comme ça qui aurait dû mourir plus tôt. Ouais, vraiment, il y a des gens, vraiment, c'est bien des fois qu'ils aient un, je sais pas, un truc qui les arrête, quoi. Mais pour nous, hein, d'un point de vue un peu d'exigence artistique, hein, pas voilà. Voilà, quoi. Comme des acteurs ou autre, parfois on se dit, il était bien une certaine période, et puis maintenant. Ouais.
Tout à l'heure, à propos de Beckett, vous parliez, enfin, vous avez fait allusion à la perception différente qu'en avaient les anglo-saxons. Est-ce que vous pouvez...
Ben en fait, quand on va voir ça, c'est qu'on s'aperçoit qu'ils en font quelque chose de beaucoup plus... peut-être tout bonnement, plus, parfois plus drôle, plus, plus vif, voilà. Et je pense qu'il y a ça. Et que nous, on a eu une lecture de Beckett, ben, qui était celle de Deleuze, il y a Blanchot, enfin, il y a un texte de Blanchot et tout, mais qui sont des choses beaucoup plus... qui mettent en avant beaucoup plus quelque chose de plus radical, de plus dur, de plus angoissant, mm-hmm. dans la perception de l'homme contemporain, en proie, même si le mot n'est pas toujours heureux avec Beckett à l'absurde et tout. Je pense qu'eux le voient plus dans une tradition de théâtre de marionnettes, parce qu'ils citent le fameux, je ne sais plus son nom, James Gray, ou quelque chose comme ça, c'est un réalisateur, mais il y a Gray en tout cas, où ils voient plus, oui, il y a un aspect peut-être plus grimaçant, il y aurait peut-être plus de... d'Ensor, à la limite, pour parler belge, mais voyez, quelque chose d'autre et qui fait qu'il y aurait manifestement, dans ce que j'ai pu voir ou comprendre, enfin, même si on a quelques éléments, une lecture anglaise, je dis anglaise, hein, enfin pour dire anglaise et irlandaise, mais différente que Beckett, qui était tout de même l'auteur de l'absurde, qui est présenté encore aujourd'hui d'une certaine manière aux étudiants, quoi, de cette manière-là. Et je pense qu'en effet, il y a une dimension fantaisiste chez Beckett qu'on trouve dans la dernière bande, qu'on trouve dans plein de choses, quoi. Et c'est pas pour rien qu'il en donne lui-même l'indication quand il fait film, son seul film, je renvoie Buster Keaton, c'est-à-dire qu'il y a quelque chose de... Et il y a une douceur aussi chez Beckett, il y a quelque chose de très nostalgique, mais quand je dis ça, il ne s'agit pas de dire on a oublié à quel point il y avait ça. C'est qu'il y a toujours... C'est comme dans une pièce de Liszt, ça démarre très vif, très nerveux, puis à un moment donné, il y a quelque chose d'un souvenir absolu qui apparaît, puis c'est repris à nouveau par quelque chose qui est trituré, quoi. Et je crois qu'il y a ça chez Beckett, et il y a plein de petits indices qu'on trouverait, enfin, berceuse, pas, enfin, tout ça, les proses, tout, c'est oui, DJ, enfin, c'est
rappel. Premier amour, il y a beaucoup de mots. Là.
Pardon ?
Dans Premier amour, par exemple.
Premier amour, qui est un texte de 48, quoi. Mais voilà, c'est le souvenir d'une rencontre sur un banc, enfin, voilà, c'est quelque chose que... D'ailleurs, Premier amour, à cause du spectacle avec Samy Frey, il y a plein de gens qui se sont dit, tiens, je vais relire du Beckett, parce que forcément, ils en avaient une empreinte qui n'était pas la même. Et ça, c'est une chose que j'ai pu observer. Le problème, c'est que Beckett est cadenassé aujourd'hui en termes un peu de mise en scène par des histoires d'ayants droit et de, voilà, donc d'héritiers. Donc, il y a des directions qui sont données à Beckett aujourd'hui qu'on ne pourra pas voir. Donc, ça ne sera pas émoussé en France, en française.
Tout à l'heure, vous avez parlé d'autres techniques. Et j'ai été peut-être... Est-ce que vous pouvez, en deux mots, redire la manière dont vous obtenez ces profondeurs dans les noirs et ces veloutés?
En termes d'impression, ça s'appelle tirage pigmentaire sur papier beaux-arts. Très banal. Ensuite, il y a un bon appareil tout de même,
qui vous
permet de bien choper. Voilà, donc je travaille avec un Leica, mais un Leica numérique qui est cassé en plus. Donc, qui s'est cassé, je l'ai fait tomber, donc il s'est arrêté sur le réglage que j'avais fait. Donc, j'utilise toujours. Il est sur un réglage qui permet d'avoir ce rapport à. Assez fin que je peux retrouver évidemment sur un. Voilà, ensuite en photographie, on essaye, puis on jette énormément.
Oui, je parlais du point de
vue. Ouais. Voilà.
Je parlais au moment de l'impression, effectivement.
Oui, voilà, l'impression, c'est ça. Donc c'est du jet d'encre, voilà, et c'est des appareils professionnels, hein, soit c'est comme ça, soit ils sont immenses, mais ça permet au moins d'avoir cette qualité-là à l'arrivée. Mais c'est un. Beaucoup de photographes ont recours à ce type d'impression aujourd'hui. Hein. Il y a beaucoup de photographies qu'on monte sur papier baryté, dont les tirages ne sont plus du tout faits. Ils ont été faits à l'argentique, ils ont été numérisés et ils sont pas tirés à l'argentique, hein. C'est papier barité, mais ils sont faits avec Gézante. Il y a toutes sortes de techniques.
Bien.
Merci.
Est-ce que on peut s'arrêter là? Bon, voilà. Écoute, Marc, merci infiniment.
Merci à vous deux, merci à vous tous.
Je voudrais que tu fais la part belle à celui qui s'entretient avec toi, parce que tu as l'habitude du métier, si je puis dire. Donc, tu facilites la tâche.
Oui, c'est vrai que j'ai une petite pensée pour les auteurs aussi, avec lesquels j'ai parfois ramé. Mais ça... On prépare la rencontre et la personne en face, elle est ce qu'elle est. Voilà. Donc, j'ai eu des rares en parole. Et voilà. J'avais l'impression toujours d'être dans genre un peu 24 heures chrono. Je suis en train de perdre. Il est passé où voilà. Il fallait courir après. Mais c'était bien aussi parce qu'il y a des gens. Ils s'expriment dans la raréfaction et tout. Quoi. Le truc, c'est qu'il faut que ça dure une heure et quart ou une heure et demie. Quoi.
Oui, tout à fait.
Mais toi, t'étais très bien, par exemple.
Merci. Merci beaucoup. Merci.